en état d'urgence climatique.
Plus chaud que le climat.
Il faut que nous entrions en désobéissance civile.
Animé par Alternative à Nantes
et le GIGNV.
Il faut que nous menions des actions non violentes, déterminées.
Résistance et alternative au changement climatique à deux pas de chez vous.
Nous allons continuer ce travail pour construire une autre société. Tout cela est à notre portée.
Bonjour, bienvenue dans la chronique Plus chaud que le climat d'Alternative à Nantes et du GIGNV. Aujourd'hui, on va vous parler de la jeunesse qui se mobilise pour le climat. Et pour parler de tout ça, on est quatre autour des micros. Au sud, nous avons
Luc à la technique.
À l'ouest,
Sophie.
Au nord,
Anto.
Et à l'est, on a Fred. Aujourd'hui, on vous parle de la jeunesse qui se mobilise pour le climat depuis plusieurs mois un peu partout dans le monde. Nous, on s'est contenté d'aller voir des jeunes sur Nantes, principalement des lycéennes et des lycéens. Et pour commencer, Sophie, on t'écoute.
Quand nous regardons vers l'avenir, il existe de nombreuses incertitudes sur ce que sera le monde de nos enfants, de nos petits-enfants et des enfants de nos petits-enfants. Mais nous pouvons être sûrs au moins d'une chose, si l'on veut que la Terre puisse subvenir aux besoins des êtres humains qui la peuplent, la société humaine devra alors être transformée. Cette citation de Federico Mayor, l'ancien directeur général de l'UNESCO, illustre une problématique essentielle concernant la délicate situation climatique dans laquelle nous nous trouvons et qu'il n'est pas vain de rappeler encore et encore, il y a urgence à agir.
En effet, on ne le répète pas encore assez, il y a urgence à agir.
Oui, car les changements que nous redoutons seront effectifs plus vite qu'on peut l'imaginer. Les solutions politiques se heurtent à de puissantes forces contradictoires et elles tardent à se mettre en place. Dans le même temps, les mentalités évoluent certes, mais nos modes de vie ne sont pas encore climato-compatibles. Et partout, à travers le monde, ce sont les jeunes d'aujourd'hui qui vont subir les conséquences directes de notre apathie.
Alors, comment se caractérisent les inquiétudes futures pour les jeunes, du coup ?
On peut se poser quelques questions. Ces jeunes d'aujourd'hui devront-ils migrer pour survivre au manque de ressources ou en raison des dérèglements climatiques ? Se feront-ils la guerre pour avoir accès à l'eau et à la nourriture ? Ou bien seront-ils solidaires dans un monde apaisé et plus juste ? Difficile de prédire l'avenir avec précision, mais difficile aussi d'être optimiste au vu des différents rapports des experts sur le climat.
Alors cet état d'esprit de la jeunesse, on a essayé de le comprendre, de le cerner. C'est difficile évidemment, mais en tout cas, merci à Clairvie, Lucie, Jules, trois lycéens qui ont accepté de nous répondre. On les écoute justement sur leur ressenti par rapport à l'enjeu climatique aujourd'hui.
Je m'appelle Clairvie et je suis en première littéraire. Alors, si jamais j'ai un sentiment quand je pense à l'écologie, c'est assez incroyable, mais ça varie énormément. C'est soit une très grosse angoisse qui s'empare de moi et une très grosse peur, ou alors... À d'autres moments, c'est une force vraiment, vraiment incroyable de se battre, de bouger et de faire des actions et de changer ça et de surtout ne pas accepter ce changement climatique et l'inaction face à ce changement climatique.
Donc je suis Lucie et je suis en première. Le premier moteur de notre action, c'est la peur. Je pense qu'on est tous terrifiés par ça. Ça peut être productif, ça peut être une peur qui va amener à des pensées plus ou moins négatives ou par plus ou moins positives sur l'avenir. Mais quoi qu'il arrive, moi je pense que tout le monde est terrifié. Enfin, en tout cas, je ne voudrais pas parler pour tout le monde non plus, mais moi je suis terrifiée par ça. Je pense qu'on peut passer par une grosse phase de déni, qu'on peut essayer d'éluder le sujet quand on y réfléchit, même si on est tous, comme je le disais, très sensibilisés à ça depuis tout le temps, notre génération en tout cas. Moi je pense que quand on y réfléchit, on a peur. Bien sûr, il n'y aurait pas autant de gens qui manifestent en Belgique s'il n'y avait pas autant de peur pour l'avenir, je pense. Comment est-ce que vous voulez vous imaginer l'avenir? Parce que c'est très très fou. Quand vous voyez des rapports comme les rapports du GIEC ou d'autres rapports scientifiques, c'est flou. On sait que ça va avoir une répercussion incroyable sur notre avenir si on ne fait rien. On sait que ça va être dramatique, mais on ne sait pas comment. Enfin, on ne peut pas s'imaginer une apocalypse avec des immeubles qui s'effondrent. On ne peut pas faire dans la demi-mesure. Du coup, on s'imagine juste un néant. Moi, je ne m'imagine rien quand je pense à mon futur avec le filtre du dérèglement climatique. Donc, voilà, je ne peux juste pas l'imaginer.
Évidemment, ce sentiment que j'ai, ces angoisses, des fois, ça m'empêche de penser, de savoir ce qui va se passer dans mon futur. Avant, c'était évident. Je voyais un futur très banal, une famille, des enfants. Alors que là, tout se bouscule. J'en viens à douter de si jamais je vais avoir un métier, si jamais je vais pouvoir vivre une vie entre guillemets normale et si jamais je vais pas avoir parce que quand je l'imagine ma vie future si jamais il n'y a pas d'action face au dérèglement climatique, elle sera totalement différente. Je sais pas si je vais en avoir une possible, et si jamais j'en ai une, ce sera rien de tout ce que j'ai imaginé et ce sera peut-être une perte de beaucoup de choses et de beaucoup de rêves.
Du coup, c'est dans ce contexte qu'est apparue la fameuse lycéenne Greta Thunberg.
En effet, certains et certaines, comme cette populaire jeune fille, ont décidé de se saisir pleinement de ces questions qui les concernent directement. Et donc, le 15 mars prochain, ils et elles seront des milliers à travers la France et même des millions dans le monde à crier leur envie d'un avenir plus propice que celui qu'on leur prédit.
Mobilisation, on en parle à nouveau avec les lycéennes et lycéens que nous sommes allés rencontrer.
Notre génération, elle est sensibilisée aux enjeux climatiques, mais elle n'a jamais eu la parole pour le dire. Elle n'a jamais eu l'occasion de le dire. Et moi, ce que je veux faire avec la démarche que j'ai eue en signant l'appel national, en mettant ça en place, c'était de pouvoir donner une voix à une génération qui est déjà sensibilisée aux enjeux climatiques et qu'on puisse montrer au gouvernement, comme à n'importe quel individu sur Terre qui peut avoir accès à ces informations, que nous, on est au courant et qu'on en a quelque chose à faire. Déjà, c'est vrai que ça a eu beaucoup plus d'ampleur, le mouvement. En Belgique, par exemple, auparavant, il y a eu des grosses mobilisations jeunes et qu'en France, on a eu un petit peu de retard par rapport à ça. Alors du retard, c'est relatif, on n'a pas 3 ans de retard, voilà. Il y a eu des petits mouvements qui ont commencé à naître un peu partout en France, mais il n'y a rien qui les fédérait. Et nous, notre but, avec l'appel national, donc du 15 mars, qui fait écho à l'appel mondial du 15 mars pour les grèves du climat scolaire, c'était de fédérer tous ces petits mouvements pour que la cause commence à grossir petit à petit et qu'on puisse toucher un maximum de monde pour que tout le monde puisse venir s'exprimer. Et moi, je pense que ça a été ça, l'élément déclencheur, c'est ce côté fédérateur.
Alors s'il y avait deux ou trois revendications fortes à préciser devant les gens le 15 mars, alors, on a beaucoup parlé du glyphosate. Moi, je suis totalement pour que l'interdiction soit effective dès aujourd'hui. Donc, ce serait une première revendication, et arrêter de repousser, car si on repousse jusqu'en 2022, en 2022, on dira peut-être on repousse jusqu'en 2042, et puis on verra ce qui se passe. Deuxième revendication, en fait, moi, j'ai parlé du glyphosate parce que moi, j'ai envie que mes revendications s'adressent directement à l'État, en fait. J'ai envie de m'adresser directement à Monsieur Macron, et j'ai envie qu'il nous réponde. Quand on a les rapports, le rapport Meadows qui date de 70, le rapport du GIEC il y a 7 années, tous les rapports scientifiques, lui qui prône l'élitisme, pourquoi n'écoute-t-il pas les meilleurs d'entre nous sur cette question-là, on nous dit que dans 2040, il pourrait y avoir 2 degrés supplémentaires qui auraient des conséquences dramatiques sur l'agriculture, sur l'eau, sur les glaciers, sur le nucléaire, même voilà, ces choses-là. On le sait tous. La revendication, je n'ai pas d'idée concrète, mais comment l'État se dit à un moment donné, j'empêche qu'il y a 2 degrés de plus en France et dans le monde, voilà, pour la deuxième. Et puis, pour la troisième, en rapport avec l'écologie, ben voilà, ce serait clairement comment investir financièrement. Et puis investir la société pour que les gens se sentent concernés. Je pense aux gilets jaunes quand je dis ça. Parce que quand on voit la taxe carbone, qui est vue comme une taxe servant l'écologie, il y a 2 gros problèmes. Premièrement, il n'y a que 20% et encore qui sont reversés à la transition écologique, ce qui montre bien l'hypocrisie. Et de deux, pour la société, les gens se disent quoi ? Ils se disent que l'écologie, elle est forcément punitive. Alors moi, ma revendication, c'est de dire à l'État, arrêtez de dire ça aux gens. Vous êtes en train de frustrer les gens. Et les gilets jaunes, ils sont pas contre l'écologie. Et aujourd'hui, certains pourraient le croire. Pourquoi ? Parce que faut pas que l'écologie ce soit inégale. Il faut que tout le monde ait les moyens de payer de l'écologie. Alors, une revendication concrète là-dessus. Taxons le kérosène des avions et des cargos qui polluent beaucoup plus que les voitures avant de taxer le carburant qui est nécessaire également.
Donc la première, ce serait que le gouvernement tienne les propres engagements qu'elle s'est fixés lors de rassemblements comme la COP24. Le deuxième, quelque chose de plutôt précis, ce serait, on en a parlé au niveau national, ce serait l'abandon du projet Montagne d'Or en Guyane. Et le troisième, on va dire quelque chose qui est beaucoup plus local, une mise en place beaucoup plus fournie de transports en commun dans les villes, la gratuité des transports, de nouvelles lignes et au niveau des endroits les plus reculés en campagne, des lignes de train par exemple, ou des choses qui permettraient d'inciter la population à se déplacer dans des transports autres que la voiture, ou alors des campagnes de covoiturage, ce genre de choses-là, mais à très grande échelle. Une revendication en plus, ce serait de donner de la place à la sensibilisation aux enjeux climatiques dans les programmes scolaires, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui.
Alors comme on l'entend dans les interviews, ces jeunes trouvent qu'on ne parle pas assez d'écologie à l'école. Pourtant, une circulaire datant du 8 juillet 2004 émanant du ministère de l'Éducation nationale visait à rendre obligatoire justement l'éducation à l'environnement du primaire au secondaire.
Tu as raison, on n'en parle pas assez. Mais ce n'est pas simplement une question d'être obligatoire ou pas, une question de quantité. Car on peut même ajouter qu'en 2005 et aussi en mars 2007, une circulaire voulait généraliser l'éducation au développement durable. En l'intégrant dans les disciplines déjà existantes, mais aussi dans des projets d'école, comme par exemple des sorties scolaires. Cela dit, l'esprit général n'en fait pas une priorité.
Oui, alors si je reviens sur le fameux EDD, éducation au développement durable, c'est un mythe que beaucoup d'enseignants contestent, notamment dans une lettre qu'ils ont adressée au ministre de l'Éducation et qui a été signée par plus de 4000 profs. On peut la retrouver, si ça vous intéresse, sur le site reporter.net.
Le lien vers cette lettre et vers cet article, vous pourrez les retrouver comme d'habitude sur notre page web du site de JTFM et dans le site d'Alternative à Nantes, avec l'ensemble des documents et des articles qui nous ont servi pour cette chronique.
Oui, je voudrais justement revenir. Ce qui est frappant dans cet appel, c'est qu'il n'y est pas seulement question de savoir et de compréhension théorique. Il est question de savoir-faire, d'action, d'engagement concret. J'allais dire « enfin ». Ces auteurs, des profs, veulent le partage des richesses et du pouvoir et une économie indexée sur le vivant. Ils ajoutent, je cite, « rien n'adviendra sans pression citoyenne et sans une mobilisation historique ». Mais ils ont raison.
Eh ben, c'est effectivement très encourageant, non ?
Un peu, mais restons prudents. Malgré les instructions officielles et l'implication humaniste de certains enseignants et certaines enseignantes, la croyance dominante ne beurre que l'école est un lieu de transmission de connaissances intellectuelles. Les critères de réussite socio-professionnelle que l'on transmet encore à nos enfants sont en contradiction totale avec ce qui nous permettrait collectivement de sortir de l'impasse.
Ce message éducatif centré sur le métier, les jeunes le dénoncent aussi. On les écoute à ce sujet dans une interview.
On ne nous apprend pas les enjeux climatiques à l'école. J'ai jamais eu de sensibilisation sur le climat. J'en ai eu pour le sexisme, le racisme, la laïcité, tout ce que vous voulez, l'éducation sexuelle, mais jamais, jamais sur le climat. Si on entend parler du climat à l'école, c'est propre à l'enseignement que les professeurs vont nous donner. C'est leur volonté de nous en parler. Donc c'est pas quelque chose qui est fait systématiquement, et ça devrait. Là, en ce moment, avec Greenpeace, on essaie de mettre en place dans les lycées des sensibilisations. C'est quelque chose que nous, on doit mettre en place. C'est pas normal. C'est quelque chose de tellement important qu'il faudrait que ce soit mis en place directement par l'État. Ça devrait être dans le programme. Ça devrait être quelque chose qu'on aborde automatiquement en cours. Et c'est pas le cas.
Alors, ça va des profs qui ne parlent même pas de problèmes climatiques, qui n'y font même pas allusion. Et puis après, il y a d'autres profs qui glissent des petits messages. Et sinon, en sciences et vie de la Terre, l'année dernière, on a beaucoup parlé des problèmes climatiques et ce que ça a impliqué et la fonte des glaces par exemple. Donc là on pouvait pas passer à côté, on a tout de suite compris qu'il y avait un problème. Et sinon cette année on nous en parle en sciences aussi, en sciences et vie de la Terre. Et en physique-chimie, par rapport à la surconsommation et à l'agriculture, surconsommation de viande, entre autres, et de poissons.
J'ai senti de la part des professeurs, une professeure de chimie notamment, un discours, mais qui était malheureusement en aparté du cours. Il n'y avait pas de lien. Le programme n'a de toute façon pas de lien avec ça. Et de elle-même, notre professeure de chimie se disait vous vous rendez compte quand même de ce qui se passe. Et voilà, et ça c'était très intéressant, et ça donnait lieu à des super débats qui n'avaient pourtant aucun lien avec le programme.
Enfin, c'est le problème que c'est quelque chose qu'on nous a déjà répété avant, et on nous dit rapidement, comme ça, on passe rapidement dessus, il faut en parler, et c'est tout. C'est pas quelque chose où on nous dit, où les profs s'arrêtent et nous disent que vraiment, ils nous regardent et ils nous disent « il faut faire attention, c'est un problème, vraiment ».
Une lueur d'espoir, c'est cette jeunesse d'aujourd'hui qui fera le monde de demain. Heureusement, eh bien, celle-ci, d'une part, dénonce l'héritage climatique désastreux qui a été laissé par les générations précédentes. Elle nous montre qu'elle n'a pas l'intention de prolonger la politique de l'autruche menée par les grands décideurs de ce monde. Et c'est à nous, finalement, d'être pas simplement à l'écoute, mais aussi à la hauteur du message que les jeunes nous adressent aujourd'hui. Alors à tous les jeunes qui se demandent ce qu'ils peuvent faire et qui sont en train de nous écouter, mais qui ont tout de même aussi envie de se faire entendre, eh bien rendez-vous le 15 mars pour cette grande mobilisation mondiale, une grève mondiale pour le climat. Eh bien, on se retrouve le mois prochain avec une surprise, puisqu'il y aura une émission spéciale collapsologie. Mais bon, en attendant, on vous souhaite une bonne soirée. On vous dit à très bientôt. Au revoir, les amis.
Salut.
Au revoir, c'était Sophie Tropal-Ouest.
Salut tout le monde.
Ciao.
Nous sommes en état d'urgence climatique.
Plus jeune que les climats.